Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également un peu de musique libre. Le sujet principal du jour, ce sera l'illustration du concept de low-tech par Low-Tech Magazine, avec également au programme en début d'émission la chronique d'Antanac avec Isabelle Carrère qui nous parlera de numérique et services publics. En fin d'émission, la chronique de Jean-Christophe Becquet qui nous parlera de Wikloo, le wiki francophone du vélo. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 9 mai 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, mon camarade Thierry Houleville. Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libérer d'autre que du logiciel? C'est la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le thème du jour, numérique et services publics. Bonjour Isa.
Bonjour, merci Fred. Bah oui, numérique service public, parce que bon, à Antanac, c'est depuis 2016 qu'on a créé les permanences d'écrivains numériques publics, qui permet de répondre et de soutenir, d'aider, d'accompagner des personnes qui ont du mal avec, alors ce qu'ils ont bien voulu appeler la dématérialisation, mais qui est en fait l'informatisation des démarches administratives. Et du coup, on s'est plongé là un peu, parce que nous, ça fait donc 2016, ça fait un petit temps. Mais je voulais regarder un peu comment c'était avant et de repasser par tous les discours. En fait, en 10 ans, on est passé dans les discours et les politiques publiques de l'énoncé « tout document administratif doit être disponible en version numérique ». On est passé à « toute démarche doit être faite par la personne sur Internet ». Et en parallèle, depuis 15 voire 20 ans, on a les guichets des différentes administrations et institutions, vous le savez tous et toutes, qui ferment, une baisse drastique des effectifs, une croyance au progrès avec beaucoup de guillemets que représenterait l'informatisation de tout, prônée déjà en 1977 par des économistes capitalistes sous Giscard. Soutenu ensuite par Jospin, qui a fait créer un premier programme d'action gouvernementale pour la société de l'information en 1998. Et ça fait Paxi. Voilà, c'est beau. Hein. Vers 2005, en faisant semblant de colmater, quelques fractures, ou bien pour éviter les remous et les protestations trop vives, ont été créés ensuite, en milieu rural notamment, des guichets qu'on a nommés à l'époque « relais services publics ». Alors, comme on ne leur donne pas de moyens et que toutes les administrations ne sont pas représentées, on n'est pas beaucoup plus avancé, les citoyens, citoyennes sont toujours dans la difficulté pour leur démarche. 5 ans après, on est donc en 2010, ce sont dans des départements tests. Oui, parce que dans les administrations, on aime bien l'expérimentation, ça fait beau. On expérimente, on conclut, on fait des rapports et hop, on généralise. Donc, dans ces départements sont créés cette fois des guichets uniques, censés pouvoir répondre à toutes les questions. Et alors, ça n'est plus les relais services publics, ce sont plus de services au public. Vous voyez la nuance. On n'est pas sur des services publics, des fonctions communes, des actions publiques pour tous. Non, on rend des services, terme éminemment connoté commerce, on rend des services au public. C'est pas plus de services publics, c'est plus de services au public. Bien sûr, le public qui en a besoin. Sous-entendu également, tout le monde n'a pas besoin de services publics, tout le monde se débrouille. Sauf bien sûr les assistés, eux. Comme à la RATP, à Paris donc, on est devenu des clientes alors qu'on était des usagers, usagères. Voilà les petits glissements dans le vocabulaire et dans les mots dont on a l'habitude désormais par les personnalités politiques. 5 ans après, donc on est en 2015, au moment où nous on crée nos permanents d'écrivains publics, ce sont des maisons de service au public. C'est pas des maisons closes, hein, c'est des maisons de service au public qui, selon la même formule, sont censées éponger les dégâts de la politique d'informatisation et d'optimisation budgétaire des administrations et collectivités territoriales. Il y en a eu 1000 maisons qui ont été ouvertes. Là encore, c'est aux citoyens de se dépatouiller, de savoir pourquoi demander aux préposés dans ces maisons, qu'est-ce qu'il faut leur demander, qu'est-ce que je dois faire. Donc on est vraiment dans une logique très 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 différente du guichet du service public. 5 ans encore après, ça y est, on est en 2020, et on a maintenant des France Services. Cela vient remplacer les relais, les maisons. On ne parle toujours plus de public ni de public. On est sur des services qu'on veut bien vous rendre, parce que quand même, alors ça peut prendre plusieurs formes et formats. Macron, dans ses campagnes, pour être élu, avait étonné personne ne doit faire plus de 30 minutes pour trouver un point France Service. Et donc, on a des bus France Service, on a dans des relais France Service, des PIMMS, points d'information, médiation, multiservice. Alors, c'est intéressant l'apparition de ce mot médiation, justement, parce que on parle même de médiateur ou médiatrice numérique. Des personnes qui se mettraient entre le numérique et les gens. Plus, il n'y a plus de service public avec des guichets, où sont des personnes capables de répondre, d'informer, d'aider dans les démarches, voire de faire elles-mêmes les actes administratifs. Non, là, on a des médiateurs, médiatrices. Il faut médier. Il faut être entre l'ordinateur et la personne. Comme si le sujet n'était définitivement plus que celui-là. Savoir cliquer. Savoir où cliquer. On ne parle pas de la fermeture des services publics, de la casse, du concept même de service public, ni de la désertion des institutions au profit du privé. Non, non, on ne parle pas de la volonté de faire faire par les gens tous les travaux qu'on ne veut plus payer, là où on ne veut plus verser des salaires, plus de pompistes, vous servez vous-même votre essence, plus de caissiers et caissières, mais des machines sur lesquelles vous faites les scans de vos achats, plus de guichets à la caisse d'allocation familiale, mais des ordinateurs sur lesquels vous faites vos déclarations. Et en fait, on fait de la médiation pour que vous acceptiez bien tout cela, et que vous le fassiez, et que vous appreniez à le faire. Ce travail dissimulé, non rémunéré, réalisé gratuitement par vous. Bon, vous le savez tout ça, vous le savez bien. Et en fait, c'est une des questions qu'on se pose sur le jusqu'où ne pas aller trop, y compris dans nos permanences d'écrivains numériques publics. La défenseure des droits, Claude Hédon, avait parlé, donc son rapport il date déjà d'un an, mais enfin, il reste intéressant. Il était en mars 2022, 3 axes qu'elle décrivait. Elle disait, donc, le premier risque, le premier danger, c'est la responsabilisation et le transfert des coûts d'équipement. Puisque maintenant, c'est plus dans les guichets et dans les administrations qu'il faut avoir le matériel, c'est chacun doit l'avoir pour le faire. La mise au travail invisible, donc ce que je viens de décrire de maintenant, c'est vous qui faites. Et puis, surtout, sans doute, le plus grave, le plus important, la rupture du principe d'égal accès aux services publics et la mise en danger de la cohésion sociale. Donc elle disait ça en mars 2022, après avoir regardé 3 années de ce qui s'était passé avec les différents travaux. On s'aperçoit qu'on est vraiment au même point, voire de plus en plus, ouais, de plus en plus de panades pour pas mal de personnes. Et on fait face, du coup, là, en Tanaï, je pense qu'on n'est pas les seuls, hein, on fait face à de plus en plus de gens qui arrivent complètement effondrés et voire hyper violents parce que, parce qu'ils sont tellement démunis que la seule façon pour eux de redire quelque chose et de protester, c'est de venir protester contre nous, puisqu'il n'y a plus de guichet ailleurs pour le faire. Et donc, on se retrouve avec des situations un peu bizarres, voire parfois dangereuses. Bon, voilà. Du coup, ça nous a amené à réfléchir à toutes ces choses-là. Et du coup, on s'est dit aussi que dans le cadre dans le contexte, des cyberattaques dont on entend beaucoup parler, augmenter des coupures de réseau électrique, peut-être qu'en fait, ce qu'on devrait faire plutôt, c'est de se demander... qu'est-ce qu'on veut garder comme matériel réellement informatique, comme solution qui soit uniquement numérique? Et donc la question que je pose aujourd'hui, c'est à quand la désinformatisation du service public?
Bah écoute, bonne question. Ces permanences, elles ont lieu quand déjà?
Les permanences, elles ont lieu, alors on a ouvert 2 soirs, lundi soir, jeudi soir, et 3 matins, mercredi, jeudi, samedi. D'accord. Parce que les personnes puissent venir en dehors de leur place de travail, notamment.
Ok. Donc les personnes intéressées vont sur le site d'Antanac, hein, antanac.com. Alors je précise toujours avec un K, Antanac. Et donc, oui. Vous êtes nos voisines, hein, et voisins, oui. Au 18 rue Bernard Dimet, dans le 18e. Donc si vous passez à Antanac, au 18, vous pouvez aussi passer au 22 pour voir le studio si normalement Jérôme est toujours présent. Enfin, assez souvent présent, Jérôme Sorel, qui anime l'émission Rayon Libre, dont je parlerai en fin d'émission. Alors sur le salon web de la radio, on t'envoie beaucoup de courage, notamment Marie-Odile, et qui te dit encore une fois une excellente chronique. Merci. Écoute, merci Isa. Donc c'était Isabelle Carrère de l'association Antanac, donc sur la chronique numérique et services publics qui sera disponible bientôt sur le site de la radio et sur le site de Libre à vous d'ici la semaine prochaine. Puis nous, merci, on se retrouve le mois prochain.
Absolument, à bientôt. Merci.
Belle journée à toi. Alors, après la pause musicale, nous allons parler du concept de low-tech. En attendant, nous allons écouter Jack-O-Lanterns par Just Buns. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause commune 93.1.
d'écouter Jack O' Lanterns par Just Buns, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va être l'illustration du concept de low-tech par Low-Tech Magazine. Alors, pour ce sujet principal, je passe la parole à Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA et vice-président de l'April.
Bonjour Fred, ben merci. Écoute, nous allons effectivement parler de low-tech. Alors, je vais faire une très courte introduction et présenter nos deux intervenants et intervenants. Donc Wikipédia, hein, moi je trouve que c'est toujours une bonne entrée pour commencer. Et puis évidemment dans l'émission on va creuser un peu la définition puisque là j'ai vraiment pris le chapeau de la définition. Donc le ou les low-tech, littéralement basse technologie, désigne une catégorie de techniques durables, simples, appropriables et résilientes. Donc au cours de cette émission nous allons approfondir ces définitions et voir concrètement comment une logique low-tech peut se décliner. Alors la majeure partie du temps de l'émission, on va échanger avec Marie Verdeil, qui est venue spécialement de Bruxelles pour parler de Low-Tech Magazine, un site que j'ai découvert récemment et que j'ai trouvé assez extraordinaire, mais elle va vous en parler, vous allez voir, c'est assez étonnant. Et puis, Kylian Kemps nous rejoindra une dizaine de minutes après la pause médiane pour parler du chaton résilien qui, alors comme d'autres chatons, hein, se pose des questions énergétiques, mais nous décrira la démarche qui est employé à Résilien. Voilà, bah écoute, je vais te passer la parole, Marie, je vais te laisser te présenter tout simplement et puis expliquer comment tu es arrivée à Low-Tech Magazine.
Oui, bonjour, merci pour m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Marie Verdeil, je suis diplômée d'une école de design aux Pays-Bas qui s'appelle la Design Academy Eindhoven et j'ai rencontré Low-Tech Magazine parce que j'ai fait un stage là-bas dans le cadre de mes études. Je pense que c'était un peu une rencontre qui m'a un peu soulagée, parce que je pense que j'ai beaucoup d'éco-anxiété en général, et découvrir un peu des personnes qui ont une pratique sincère et vraiment, on va dire, pas trop greenwashée par rapport à dans le design. En tout cas, je trouve que c'est une pratique du design pour moi, comme fait Low-Tech Magazine. Je pense que ça a été un moment de me dire « Ah, et en fait, on peut faire des choses, et il y a des façons d'agir qui me parlent, et dans lesquelles je peux m'investir et m'engager ». Alors que j'avais, moi, l'idée d'aller faire un stage, comme on va dire, c'était attendu de moi à ce moment-là, de peut-être aller dans un studio design, aller designer des logos, ça me plaisait pas du tout, quoi.
Oui, donc tu as trouvé ta structure, quoi, quelque part, en rencontrant Low-Tech Magazine. Alors comment ça s'est fait, cette rencontre avec Low-Tech Magazine? Ils cherchaient des personnes ou comment ça s'est fait?
Bah alors je pense qu'en fait, à la base, déjà, il faut dire que Low-Tech Magazine, c'est surtout une personne. C'est un journaliste à la base qui s'appelle Chris Eddecker. Il est flamand, donc belge d'origine. Et il habite à Barcelone, ce qui fait beaucoup de liens avec le site dont on va parler plus tard. Et en fait, il collabore beaucoup avec des personnes, notamment il a collaboré avec une autre personne qui est aussi designer et un artiste pour faire le site solaire de Low-Tech Magazine, et aussi avec d'autres gens au fur et à mesure de son parcours. Et moi, je l'ai un peu contacté en lui disant « Voilà, j'aime bien ce qui se passe, ce site solaire m'intéresse parce que je fais aussi du design, entre autres du design, du web design ». Et là, en ce moment, je construis une cabane, ce qui était vrai. J'avais un projet un peu social de cabane à ce moment-là. Et voilà, peut-être que tu connais des gens. Écoute, sinon, peut-être qu'on peut parler, puis on verra, quoi. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et là, du coup, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble. Au début, assez... j'ai été là-bas, etc. Et maintenant, on est aussi à distance. Voilà, donc je fais un peu tout ce qui est... Je travaille sur des questions de design. On a aussi... Quand j'étais là-bas, on a construit un vélo générateur.
Il y a un article extraordinaire sur le site.
Ouais, voilà. Je ne sais pas s'il faut que je continue. Ou tu
non, bah alors après, peut-être que tu peux... Justement, en introduction, j'ai vraiment donné une définition extrêmement simpliste du low-tech. Alors, du coup, quelle est la manière de voir du Low-Tech Magazine? Qu'est-ce qui se différencie justement de ces très nombreux sites qui font du greenwashing, qui surfent sur la vague? Comment vous incarnez la question low-tech à Low-Tech Magazine?
Et je pense que c'est une question très intéressante parce que je dirais qu'on est assez en désaccord avec cette définition française. Et je pense qu'il y a vraiment une définition française qui est différente. Et je me demande si aussi elle est liée, on va dire, à la transition de langage. Mais c'est vrai que l'idée de définir les low-tech comme une série de technologies bien claires, de dire que celles-ci sont durables et résilientes et que d'autres ne le sont pas, je trouve que c'est très limité et en plus c'est assez... on arrive très très vite à des contradictions. C'est-à-dire que... Enfin, ça veut dire quoi? Par exemple, le four solaire, c'est une technologie low-tech, mais finalement, déjà, enfin, on ne peut pas penser vraiment à un monde où tout le monde a des fours solaires, puis de toute façon, tout l'hiver, comment on fait? Puis c'est, enfin, c'est, je trouve que c'est penser à ça comme une sorte de mode de vie, avec des technologies bien claires qui vont y être, qui vont faire exister ce mode de vie. Donc, par exemple, l'idée d'un four solaire ou l'idée de les marmites norvégiennes, tout ça, c'est très individualisé, je trouve. C'est-à-dire, chacun a une sorte de vision individualiste de sa maison qui va être low-tech, entre guillemets. Et puis, en plus, ça, on arrive vite à des limites. Moi, on prend souvent cet exemple, mais, par exemple, on peut dire que le dumb phone, quoi, le téléphone à clapet, le Nokia 33.9, là, ou je sais plus comment il s'appelle, c'est le low-tech de l'iPhone, quoi. Et je pense que c'est plus une, il faut avoir une pensée de low-tech comme plutôt un exercice, une approche critique de la technologie et du progrès technologique plutôt que de penser, enfin, c'est un terme relatif, je pense. Et c'est ça, cet exercice, pour moi, c'est plus un prisme de pensée, un exercice critique de la du progrès et de qu'est-ce qui nous apporte vraiment entre guillemets plutôt que une sorte de solution. Enfin, je pense que si on parle de low-tech comme des solutions, on va dire durables, résilientes, on est aussi dans une sorte de technosolutionnisme de bon bah du coup ce sera pas la voiture Tesla et la fusée qui va nous sauver ou la fission nucléaire, mais ça va être le four solaire et l'éolienne. Je crois qu'on est vraiment dans une même logique et on va se confronter aux mêmes limites que ce mode de pensée induit, quoi.
Ouais, je pense que c'est important de souligner ça. Enfin, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé dans les lectures. Et aussi, ce que vous pointez dans... Alors, il y a un article sur les colibris ne suffiront pas. Alors, j'ai pas le titre exact, je le remettrai dans le chat. Mais justement, cette question de l'individuel... Alors, évidemment, notre société est faite pour qu'on se concentre sur nos actions, qu'on focalise sur nos actions, qu'on nous rende coupables des actions qu'on ne ferait pas sur les questions écologiques. Alors qu'en fait, finalement, c'est beaucoup plus systémique. Faut regarder ça de manière beaucoup plus globale. Et ça, je pense que vous c'est une question que vous soulevez systématiquement, justement, c'est le cas de le dire.
Oui, oui, tout à fait. Je pense que... Alors, je sais pas c'est quoi le titre en anglais, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas
en anglais.
Le titre.
Alors, on va demander au chat de nous aider, là. Alors, je l'avais noté dans le pad, hein, le titre en français. Déjà, ça va nous aider. Voilà, nous n'y arriverons pas seuls, l'illusion du colibri. Ça, c'était le titre français. Ouais. Alors j'avais pris une citation dans l'article, comme ça va éclairer mon propos, qui sera peut-être plus clair en lisant le texte. Insister sur la responsabilité individuelle est typique du néolibéralisme et permet souvent de faire taire une critique systémique des configurations politiques, économiques et technologiques. Ouais. Et ça, je trouve ça, enfin voilà, c'est une phrase qui est forte parce que du coup, elle montre bien toutes les problématiques qu'on a quand on parle de technologie et les techno-béats, techno-solutionnistes qui s'engouffrent, enfin qui profitent de cette logique-là, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut tout à fait dépasser ce mode de pensée. Et puis, je pense aussi vraiment arriver, et c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, c'est comment arriver à mettre aussi en place, même à travers des solutions, enfin, des objets qui vont peut-être porter, ou des prototypes qui vont porter ce message de low-tech, mettre en avant, au lieu de solutions, on va dire, très concrètes d'énergie ou d'apport, enfin, de cuisson, enfin, les choses de la vie de tous les jours, mais mettre aussi en avant des choses qui sont plus, qui permettent de dépasser l'individualité, donc plutôt comment penser à la fête, à la convivialité, et aussi le fait que essayer de dépasser l'idée que low-tech, c'est forcément moins bien que high-tech, et ça veut dire qu'en fait, on vient renoncer à à beaucoup de choses. Et qu'en fait, finalement, l'idée de la décroissance, c'est l'idée de retourner en arrière, c'est l'idée de devenir des hommes de Cro-Magnon et que et ça s'arrête tout ça, etc. Et je pense qu'il faut aussi arriver à se dire et avoir un peu constamment cette façon de penser, de se dire, bon, est-ce que ça va vraiment nous rendre moins heureux de renoncer à certaines choses et de renoncer surtout à l'idée de confort? Je pense que pour moi, c'est un mot très fort et très capitaliste qu'il faut arriver à défaire et qui est très difficile à défaire. Et du coup, voilà, vraiment, on se pose des questions. En ce moment, là, on a fait des expérimentations pour, par exemple, utiliser des panneaux solaires avec une énergie directe, donc sans batterie, etc. Tout ce qui va être aussi, on va perdre l'énergie à travers la batterie. Et en plus, c'est pas très,
très chimiquement propre.
Voilà,
une batterie,
exactement.
De toute façon.
Et du coup, utiliser directement ça pour aller alimenter par exemple des tourne-disques ou faire de la musique, faire des choses comme ça. Donc un peu essayer de penser, on peut dire oui ça sert à rien parce que bah voilà c'est ça va pas faire cuire ton pain, mais en même temps je pense que c'est plus l'idée de dire bon bah se rassembler autour de ces choses, surtout de ces idées de solutions. Il faut que ce soit pas pour survivre tout seul chez soi, mais l'idée de se dire en fait ce qui a vraiment de la valeur, c'est la convivialité, le fait de faire ensemble et peut-être de retrouver cette manière de faire ensemble à travers ces solutions plus low-tech.
Oui, finalement, on lutte aussi contre la rupture sociale, c'est-à-dire que du coup on recrée du commun. L'article sur le vélo, l'article justement sur cet appartement qu'on va essayer d'alimenter sans passer par le 220 EDF, sans passer par les batteries. Tout ça oblige à se réfléchir, à se confronter, à penser des nouvelles choses, quoi. Et moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et on re-questionne. Alors ça fait partie. Alors du coup tu peux peut-être aussi nous parler de Low-Tech Magazine, le pourquoi il est né et puis un peu ses objectifs, mais par rapport à justement se réapproprier un peu les techniques, quoi. Arrêter de penser que tout est magique. Et puis, de toute façon, si ça marche pas, faut renvoyer ça à un constructeur. Il y a aussi tout ça dans le Low-Tech Magazine. Peut-être que tu peux nous redire comment s'est créé Low-Tech Magazine. Quels sont les objectifs, finalement, de ce site?
Alors, je peux en parler un petit peu. Après, c'est pas moi qui l'ai fondé, mais c'est un magazine qui a été fondé en 2007, donc qui est à la base et qui est toujours un magazine en ligne, qui était à la base un blog. Et maintenant, il y a aussi une version papier. Je pense que vraiment ce qui était intéressant là, qui intéressait Chris, c'était d'avoir un média pour pouvoir être critique et un petit peu sceptique par rapport aux évolutions et on va dire aux discours très très importants le plus présent de technosolutionnisme, oui, et puis aussi d'apporter on va dire un. Je pense que lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est d'aller piocher, de faire des recherches historiques, et notamment de faire la recherche historique de ce qui a été un peu oublié, des technologies qui ont été un peu oubliées, et de s'approprier certains savoirs, certaines façons de penser, qui vont permettre d'avoir une critique technosolutionniste différente, et aussi de montrer qu'il y a un certain oubli historique, un révisionnisme qui a lieu pour nous assurer que oui, ce qu'on a, c'est vraiment le progrès le plus pointu, et que voilà, on est dans la high-tech, quoi.
Ouais, quand on lit l'article sur Cover, donc qui est un inventeur du début du 20e siècle, hein, qui avait finalement trouvé un peu par hasard c'est ce qui est souvent le cas, une autre technologie pour les panneaux solaires. On voit bien tout ce qui peut se passer, et finalement, quand il y a des dominations de grandes entreprises, parce que fondamentalement, la question reste posée dans l'article de savoir s'il a pas été volontairement écarté, mais alors que sa techno était extrêmement intéressante et a priori un peu moins polluante que les panneaux solaires de maintenant. Donc je trouve que voilà, encore une fois, cet article il est extrêmement éclairant. Il questionne historiquement les questions de low technologie. Enfin alors low technologie, alors à l'époque évidemment c'était pas de la low technologie, encore une fois tu disais tout à l'heure que c'était relatif et du coup là ça le montre aussi, mais voilà, cet article illustre bien cette logique là de technologies qui peuvent soit émerger finalement, soit être étouffées parce qu'il y a des intérêts économiques, des intérêts politiques, etc. Ouais, là aussi je recommande la lecture de cet article-là. Alors faites attention, hein, parce que c'est pareil, on se dit tiens, j'ai 5 minutes, je vais lire l'article. Puis finalement, on est au bout d'une demi-heure, on est encore en train de lire, tellement c'est passionnant aussi historiquement, techniquement, il y a pas mal de recherches. Donc Low-Tech Magazine sur des questions des recherches historiques, on va dire, techniques historiques. Il y avait quoi comme autre objectif à la conception de Low-Tech Magazine?
Qu'est-ce qu'il y avait comme autre objectif à la conception de Low-Tech Magazine? Écoute, ça, je sais pas trop.
Non, tu avais parlé, on en a un petit peu parlé, mais donc dans la préparation, dans l'échange qu'on avait eu, il y avait eu la question vision systémique, sociétale, individuelle, donc on l'a déjà un peu évoqué, mais ça faisait partie un peu des choses qui doivent être pointées, en tout cas qu'on retrouve dans la lecture de plusieurs articles. La vulgarisation scientifique, alors peut-être que tu peux parler de l'article auquel tu as beaucoup contribué sur le vélo général. Parce que moi qui ai fait un tout petit peu technique, mais franchement je ne me considère pas technicien, moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est toute la documentation et la possibilité qu'on peut être pris par la main pour finalement faire son propre vélo, quoi. Voilà, avec une connaissance certes un peu de base, mais on ne retrouve pas une formalisation aussi avancée sur beaucoup de sites, quoi. Alors vas-y, raconte-nous un peu l'histoire du vélo. Ouais. Du vélo.
Non, mais je pense que c'est vraiment intéressant comme angle de vue, oui. Du coup, on a décidé de construire un vélo enfin, on n'a pas construit le vélo, on a utilisé un vélo donc
d'appartement.
Un vélo d'appartement d'exercice vintage, donc qui a encore une roue, un volant d'inertie s'appelle, donc une roue lourde qu'on vient activer et qu'on va pouvoir, c'est ça qui va nous permettre de faire l'exercice, donc c'est pas un vélo électronique. Et on a utilisé ça pour faire un vélo générateur, c'est-à-dire qu'on a en gros ajouté, pour faire une image, une grosse dynamo, donc un moteur, qui est quand on pédale, on active la roue, qui active la petite roue, qui fait tourner le moteur, et du coup, on produit l'énergie. Et après, la question, ça a été de, un, d'utiliser cette énergie et de tester, l'utiliser sur des appareils domestiques, et de faire plusieurs circuits qui vont alimenter différemment, et de deux, de vraiment essayer de documenter au maximum ce processus et d'essayer de comprendre en fait à quoi il... En plus de le faire aussi, qu'est-ce qu'il nous apprenait sur notre façon d'utiliser l'énergie et comment on pouvait y transmettre ce savoir. Et aussi utiliser ça un peu, pas pour transmettre le savoir de savoir faire ce vélo générateur, mais d'essayer de transmettre plutôt un savoir de très empirique de ce qu'on avait appris, nous, alors qu'on n'est pas du tout à la base scientifique, ni lui ni moi, autour de ça. Et on a des conclusions... Voilà, comme j'ai
donc,
dit.
Ouais, la démarche, en fait, c'est ça qui nous importe, enfin, qui est extrêmement intéressant quand on lit, c'est toute la démarche et ses erreurs. Là, on se retrouve dans la démarche scientifique, alors ça me touche particulièrement, mais je trouve que justement, ça montre bien que la technique, c'est ça aussi, quoi. Maintenant, on est des utilisateurs passifs d'ordinateurs, ça marche pas, donc on envoie potentiellement un mail à quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. C'est pas ça la technique, c'est faut se confronter à la technique pour justement pouvoir apprendre, pour justement pouvoir s'améliorer, comprendre et puis essayer de la réparer justement aussi, la faire évoluer, quoi. Oui, j'ai trouvé cet article-là particulièrement intéressant aussi. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est recommander à chacun de fabriquer son propre vélo pour pouvoir regarder Netflix, pour alimenter la télé. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'était qu'on était capable finalement de faire tourner une machine à laver avec ce vélo, en termes de puissance, en termes de représentation.
Alors, une machine à laver, on l'a pas testé. Je pense que il faudrait le faire, mais dans ce cas-là, avec l'énergie mécanique, c'est-à-dire ne pas utiliser l'électricité entre les deux et vraiment le faire. Il y a des gens qui l'ont fait, je sais, notamment dans les Pyrénées, de faire des machines à laver à vélo. L'idée, c'est pas forcément de dire aux gens de construire un vélo, parce qu'encore une fois, on n'arrive pas vraiment... Enfin, l'idée, c'est pas d'être dans l'individualité, de chacun va construire son petit vélo chez soi. C'est plus de penser qu'est-ce que ça veut dire de faire sa propre énergie, qu'est-ce qui est possible d'alimenter ou pas, et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire, je pense... Si vraiment on pense à réduire considérablement, on va dire, l'énergie qu'on utilise autour de nous, eh bien ça veut dire qu'est-ce qu'on peut pédaler, qu'est-ce qu'on peut faire alimenter avec notre propre énergie et qu'est-ce qu'on peut pas. Et du coup, est-ce que ça pourrait être une façon de penser à ce qu'on est capable d'alimenter comme étant la limite de ce qu'on peut consommer. Et parce que, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'un téléphone, c'est très facile, on peut même mettre 10 téléphones. Après, par exemple, un frigo, ça devient difficile. Ou alors une bouilloire. Alors ça, c'est très intéressant. On prend souvent cet exemple, c'est-à-dire que Chris, il l'a fait. C'est-à-dire qu'on avait une petite bouilloire à 12 volts, une petite bouilloire qu'ils ont dans les camions, par exemple. Et on avait mis l'équivalent d'une tasse de thé dedans pour essayer de la faire arriver à 60 degrés, quoi, une température de thé. Mm-hmm. Mais bon, ça prend 30 minutes d'effort à vraiment...
Intense.
C'est très intense, quoi. C'est comme une grosse côte. Et du coup, à la fin, on a très chaud. Plus du tout envie de boire du thé, quoi. Et du coup, c'était aussi un peu l'idée de penser que c'était... Enfin, d'ailleurs, en français, cet article s'appelle le vélo générateur, il me semble, pour la chaleur, l'électricité. Et du coup, l'idée, c'est l'électricité, on la produit. Et la chaleur, bah, on la produit aussi parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Et c'est aussi une autre façon de penser. Mais je pense que c'est pas tellement... Enfin, encore une fois, pour moi, c'est des outils et c'est la même chose que l'idée de low-tech en général, c'est des outils pour arriver à penser de façon critique et à penser à se poser des questions de qu'est-ce que ça veut dire vraiment réduire et comment on le fait de façon qui soit pas dans la contrainte et dans la souffrance de se dire ah on est en train de renoncer à plein de choses. Et je pense que voilà, c'est pour moi c'est un outil de médiation aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on l'a amené dans une sorte de Fab Lab, enfin de workspace qui est à Barcelone. Parce que du coup, le vélo est à Barcelone. Et c'était intéressant de faire. On a fait de la guitare avec, enfin la guitare électrique par exemple, et on l'a amené. Il y a plein de gens qui l'ont essayé. Je pense que c'est aussi des façons de comprendre l'électricité. Enfin, moi, j'ai compris l'électricité à ce moment-là. J'ai compris la différence entre les volts et les ampères, parce que vraiment, voilà, tu rajoutes des ampères et tu les sens dans les jambes parce que ça devient de plus en plus dur à pédaler. Et vraiment, ça, je pense qu'il n'y a pas un cours de physique, il va falloir te l'apprendre de cette manière-là. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et je pense que c'est Et c'est pareil avec le logiciel libre, quoi. La fin, c'est aussi se dire, on met les mains à la pâte et on est vraiment dans la technique. C'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment avoir expérimenté, quoi.
Ouais, et enfin, à t'écouter, je prends aussi conscience dans cette démarche-là que justement, on prend conscience des échelles aussi, des échelles d'énergie potentielle pour faire telle ou telle chose. Ça me fait penser aussi aux problématiques qu'on peut avoir dans le numérique quand on essaye de faire comprendre aux gens ce que représente la donnée, ce que représente la consommation d'énergie. On n'arrête pas de nous dire bah videz vos boîtes mail, vous allez économiser beaucoup d'énergie, etc. Alors qu'on sait, enfin maintenant on le sait, c'était pas forcément le cas avant, mais on sait que c'est bien plus important de prolonger son appareil électrique. Et du coup c'est voilà, ce type de démarche là permet aussi justement de savoir quelles sont les opérations qui vont prendre beaucoup d'énergie, moins d'énergie. Voilà, on touche les choses, quoi. Enfin, c'est ce que tu dis. Finalement, on touche les choses et on les appréhende beaucoup mieux que si on les lit sur papier, quoi. Entre la théorie et la pratique, on s'approprie un peu mieux les choses.
C'est ça. Mais je pense que j'aime bien aussi le style Low Tech Magazine. Et moi, ce qui m'a directement parlé, c'est que comme c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est vraiment à la base un journaliste qui écrivait d'ailleurs pour... qui faisait de la revue, il me semble, de... tout ce qui était de la veille technologique pour des magazines, donc vraiment revue de high-tech, on va dire. Et du coup, il a cette approche de la technologie où il comprend beaucoup de choses, mais en même temps, il n'a pas du tout une compréhension scientifique ou technique, et du coup, il va venir aussi et garde, en fait, je pense que cette... et moi aussi, je trouve que c'est vachement intéressant, de garder un petit peu de naïveté et de ne pas essayer de tout comprendre pour arriver à encore être le lien entre les personnes qui ne comprennent pas du tout et qui sont très loin de ça, et on va dire les discours scientifiques, quoi, parce que sinon on a aussi un problème d'articulation de ces problèmes qui peuvent paraître très vite abstraits. On parle d'énergie, parler de voilà d'énergie, de puissance, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quand même pas forcément évident, quoi. Moi je pense toujours à ma grand-mère qui était prof de physique, qui m'expliquait essayer d'expliquer la différence entre la puissance et l'énergie, et moi j'ai pas compris, quoi. Je pense qu'il faut vraiment être essayer de s'approprier ces choses-là par le faire.
Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été vaccinés par les cours de physique. Pourtant, il y avait à l'époque... Alors, Marie-Odile nous dit dans le chat que les cours de techno en 6e, ça faisait partie du programme, toutes ces questions-là, et que c'est en train d'être supprimé. C'est bien dommage. Il y avait quand même cette question des travaux pratiques, où justement, on est censé appréhender ça. Bon, moi, les souvenirs que j'en ai, c'est vrai que ça restait quand même très... très cadré et de plus en plus pauvre, qui permettait pas du coup d'expérimenter, de faire des essais-erreurs, quoi. Finalement, le fil du travaux pratique était très très cadré, donc on sortait pas d'un chemin qui était tracé. Donc c'est là que c'était peut-être un peu compliqué. Et c'est vrai que du coup votre démarche là, où finalement vous êtes, c'est complètement ouvert. À un moment donné, vous vous dites bah tiens, c'est quoi cette problématique là, on va travailler sur ce sujet là, on isole le problème, on travaille, on avance, et puis on résout ce problème là, puis après on passe à un autre, on décompose en petits problèmes pour pouvoir les réassembler ensuite. Voilà, cette démarche là, c'est chouette de pouvoir la dérouler. Enfin voilà, quand on voit le résultat de l'article, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà.
Et puis je pense que c'est une approche pragmatique, on va dire, de thème qui parle avec beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est vraiment essayer au lieu d'avoir une approche très très large, c'est d'avoir une approche, je pense, qui va être systémique et qui va penser vraiment plein d'éléments, par exemple l'énergie, l'électricité, qui a le réseau d'électricité, tout ça, mais de façon avec des angles d'approche petits. Et je pense que c'est vraiment hyper nécessaire. Et je pense que par exemple, le design, c'est aussi une façon de faire ça, c'est de se dire bah, on a une approche pragmatique par les objets et ou d'ailleurs d'autres choses, mais qui après permettent d'aborder des thèmes plus larges, mais sans les rendre complètement lointains.
Mmh. Ouais, la technique est politique, hein. On avait dû l'échanger, je pense, dans le pad, mais je pense que ça, c'est primordial, hein. C'est clair que ça fait partie des éléments importants. Alors, du coup, on va rejoindre peut-être un sujet qui me semble important dans l'émission. La convergence entre logiciels libres et low-tech, tu la vois comment? Low-tech Magazine la voit comment? Alors, il y a un article, là aussi, qu'on va signaler, hein, qui parle justement d'une personne qui garde son ordinateur le plus longtemps possible. Donc là, je vous invite à le lire, hein. C'est des choses qu'on connaît déjà à l'April, mais là aussi c'est très descriptif, ça explique toute la démarche et le pourquoi il en est arrivé à cette conclusion, ce qui n'était pas le cas au départ, hein, il n'était pas forcément parti pour ça.
Mais alors oui, je pense que déjà il y a le logiciel libre est déjà assez présent dans le mode de travail de Low Tech Magazine, donc comme Chris il utilise des Linux depuis très longtemps, il est sur Linux, il a des vieux ordinateurs, et donc il explique très bien dans cet article pourquoi en fait pour lui et pour plein de gens c'est mieux. Et je pense qu'il parle vraiment très bien de la question de, on va dire, compatibilité et rétrocompatibilité, quoi. C'est-à-dire que on va avoir des logiciels libres qui vont fonctionner sur des vieilles machines. Et vraiment, nous, on a le site. C'est un site très simple en termes de comment il est construit en HTML, etc. Donc, il fonctionne sur des très, très vieilles machines. Moi, il m'a donné un ThinkPad, c'est 2006, je crois. Voilà, ça, il n'y a pas de souci avec le site. En plus, il est très léger. Et je pense que donc, il y a cette idée-là, donc vraiment dans le mode de travail. Et après, je pense que déjà, il y a un peu ce côté, donc cette approche critique à la technologie, évidemment. L'idée de commun, de mise en commun. Et nous, on essaye aussi de mettre en commun, de partager notre savoir. Et donc, par exemple, bon, alors c'est compliqué parce que de toute façon, la licence sur tout ce qui est les idées, par exemple, ce vélo générateur, on a mis en ligne les plans et tout ce qu'on a trouvé. Après, je pense qu'on espère que ça va aussi créer des discussions. Si les gens, ils le font, ils vont répéter ça. Ça serait intéressant qu'on en discute, quoi. Après, je pense que, comme tu dis, il y a aussi la dimension politique, quoi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, je pense que l'idée de low-tech, c'est pas... Ça doit pas s'arrêter à une sorte de mode de vie. Et c'est un peu en train d'être comme ça, je trouve, en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur comment on va acheter ce mode de vie low-tech, c'est-à-dire acheter un vélo cargo et acheter quelque chose comme ça. Et aussi... Donc il y a cette idée-là, et je pense qu'il faut vraiment la dépasser pour penser que c'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de politique aussi. Il faut, à la fin, c'est de la critique de notre société, et il faut pas se laisser, on va dire, faut pas se laisser capitaliser par, faut pas laisser les gens capitaliser sur cette idée, quoi.
On est d'accord, hein, le logiciel libre, c'est aussi quelque chose d'extrêmement politique. L'April est bien placé pour le savoir. Je vais repasser la parole à Fred.
Oui, l'occasion de faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
sculptés sur la terre par Sucre Pop, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY SA. Nous allons poursuivre notre discussion sur le low-tech, ou la low-tech, je sais pas en français comment on dit. En tout cas, je vais redonner la parole à donc Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA, vice-président de l'April, Marie Verdeil, designer chez Low-Tech Magazine et indépendante. Laurent, Marie, c'est à vous.
Merci Fred. Alors après cette pause musicale, on va passer la parole à Kylian s'il est connecté. Est-ce qu'il nous entend ?
Bonjour.
Bonjour Kylian, parfait, c'est impeccable. Donc tu es à Lannion, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Tu es loin du studio, mais normalement tu vas réussir à nous parler du chaton résilien, donc chaton collectif des hébergeurs, alternatif, transparent, ouvert, neutre et solidaire, et résilien en particulier puisque tu es cofondateur de ce chaton, me semble-t-il. Donc écoute, tu vas nous présenter ce chaton et puis nous expliquer en quoi finalement les questions énergétiques sont présentes à résilien.
Oui, très bien. Résilien, c'est un hébergeur numérique alternatif cofondé avec Simon Constant en 2021. Donc nous faisons partie du collectif Les Chatons et nous avons une vision de la technologie où nous voulons aider les gens à se réapproprier la technologie. Et notre signe distinctif par rapport aux autres hébergeurs, c'est qu'on souhaite le rendre le plus sobre du point de vue écologique et de décentraliser l'infrastructure. Tu parlais de l'énergie. Comment réduire l'énergie? Alors, d'un point de vue écologique, par rapport à ce que nous connaissons actuellement de l'impact écologique du numérique, aujourd'hui, nous estimons que l'impact est plus grand au moment de la fabrication des machines. C'est-à-dire que c'est au moment de la fabrication des machines, il y a plus d'énergie qui est dépensée et de pollution qui est générée, et notamment du CO2. Donc, si on souhaite être écologique dans le numérique, le mieux déjà, c'est de faire durer le plus longtemps possible nos machines. Chez Resilien, pour ça, nous avons privilégié l'utilisation de machines reconditionnées. Donc, ce sont des machines qu'on peut trouver chez n'importe qui, des ordinateurs portables, voilà, n'importe quoi, juste qu'ils soient réutilisables et on veut faire durer le plus longtemps possible. Et quand même, sur la consommation énergétique, nous avons des micro-ordinateurs qui sont connus sous le nom de Raspberry Pi. Et qui sont connus pour leur faible consommation énergétique. Et donc, nous avons quelques machines comme ça. Et pour donner un ordre d'idée, sur toute notre infrastructure publique en France, sachant que nous sommes un tout petit hébergeur, nous consommons 80 watts. Donc, à peu près l'équivalent d'un ordinateur portable. 80 watts, sachant que nous avions environ une vingtaine de clients dispersés dans la France, dont une agence de communication locale. Et il y a pas mal de...
Si je peux me permettre, oui. une structure qui hébergerait sans faire attention à la, comme vous le faites vous, ce serait combien? Ce serait quoi, le double?
À peu c'est près, difficile à dire.
Un ordre d'idée?
En fait, si une structure héberge ses données dans un centre de données très bien optimisé, dans une grande entreprise, normalement avec la mutualisation, l'impact est assez faible. En termes de consommation énergétique, parce que il y a une machine qui est allumée et qui est partagée entre des centaines, voire des milliers de personnes en même temps. Nous, chez Resilien, on peut pas faire de mutualisation parce que nous avons plein de petites machines.
D'accord, vous êtes dans une logique de décentralisation. C'est pour ça que vous avez choisi de ne pas être sur des gros data centers. Donc c'est aussi pour ça que viennent. Ah, on a des petits soucis de micro. Donc vous êtes dans une logique de décentralisation. Donc c'est aussi pour ça que vous avez cette consommation là, mais qui est quand même faible.
Oui, pour l'instant c'est pas énorme, et en même temps nous n'avons pas non plus beaucoup de clients. Pour l'instant nous sommes en sous-charge, je dirais. On peut encore accueillir beaucoup plus de personnes. En même temps, nous ne cherchons pas forcément à être efficients. Pour l'instant, l'industrie, elle cherche à être efficiente, à consommer le moins d'énergie possible par rapport à la charge de travail. Nous ne cherchons pas à faire ça parce que on a un peu peur de l'effet rebond. C'est-à-dire que les machines sont tellement efficientes que les gens se disent « Ah bah, c'est pas cher de consommer plus, du coup on consomme plus ». Nous, on cherche plutôt à repenser l'usage différemment.
Ouais, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est bien que tu parles de l'effet rebond. Alors, du coup, je vais faire un tout petit parallèle avec Zurit. C'est vrai que pour Zurit, qui est donc une solution que proposent des CMEA, on fait payer aussi aux gigaoctets, ce qui permet de faire prendre conscience aux gens que, bah oui, à chaque fois qu'ils demandent plus d'espace, ça a un coût énergétique quelque part. Donc, c'est pour des raisons pédagogiques, finalement, qu'on fait ça, contrairement aux géants du web qui offrent des espaces infinis, enfin, qui donnent l'impression d'offrir des espaces infinis et qui, finalement, trompent les gens sur ce que c'est réellement que l'informatique et le numérique. Vas-y, je te laisse poursuivre.
Bah justement, à propos de cette approche pédagogique, donc chez Résilien, nous expérimentons. En ne disant pas que nous avons la solution, mais on essaye différents usages. Par exemple, nous éteignons une partie de nos machines la nuit. La plupart de nos clients sont des entreprises qui, a priori, n'ont pas besoin de travailler la nuit. Donc, nous éteignons les machines et économisons l'énergie électrique à ce moment-là. Avec quand même un bémol, on fait exprès de laisser allumer les machines qui hébergent les sites web afin de garder un bon référencement et que les gens puissent continuer à consulter le site web. Ça, c'est la première approche. Et une autre chose qui est un peu dans la continuité, on ne propose pas de haute disponibilité des services. Aujourd'hui, les grandes entreprises proposent ce service-là, qui est donc de faire en sorte qu'il y ait le moins de panne possible des services. Mais pour faire ça, on fait duplique les services sur plusieurs machines qui tournent simultanément. Donc pour un site web par exemple, bah il est répliqué sur au moins trois machines différentes qui consomment autant. Nous proposons de ne pas faire ça et donc d'avoir qu'une seule machine et si elle tombe en panne, eh bah tant pis. Avec encore une fois un bémol, quand même pour le choix des sites web, on préfère quand même faire des applications avec un logiciel libre développé par l'association De Fleurs. Un petit coup de pub pour nous, les amis. Et donc c'est quand même un logiciel plutôt sobre et qui permet de faire facilement la duplication de sites web qui sont des sites statiques. Donc c'est un compromis que nous faisons.
D'accord, bah en tout cas c'est extrêmement intéressant ce voyage dans le monde des hébergeurs finalement, donc c'est extrêmement intéressant. Bon, tu as parlé un petit peu des limites, donc vous êtes obligé finalement de laisser des sites ouverts la nuit quand même pour la question de référencement, pour pas que les sites tombent dans les limbes des internets on va dire. Et est-ce que vous avez des réussites?
Pour l'instant, notre réussite, c'est que personne ne nous a fui. Tous les clients qu'ils ont rejoints sont toujours là. À noter quand même que ce sont des personnes qui sont plutôt militantes, engagées, qui sont convaincues par notre démarche.
Ouais, qui ont compris les enjeux qu'il y avait pour venir vers vous, en fait. Hein, c'est ça, il y avait déjà un préalable, il y avait déjà un terreau.
Tout à fait, c'est pas n'importe qui vient nous voir. Et pour continuer sur nos réussites, en fait, pour l'instant, Résilien, c'est tout petit. On ne sommes que deux à gérer les machines qui sont éparpillées entre la Bretagne, la Loire, un petit peu en région parisienne. Et malgré le temps qu'on accorde, en fait, ça marche plutôt bien sur les petites machines. Et personne ne s'est plaint des possibles pannes.
D'accord. Votre modèle économique, pour l'instant, n'est pas encore consolidé. Vous êtes deux salariés, mais c'est encore pas consolidé. Vous êtes vous êtes toujours en train de développer pour chercher un équilibre financier. Vous êtes loin de l'équilibre financier encore.
Alors justement, à propos de la pérennité économique, donc au départ, Résilien, on voulait pouvoir en vivre. Sauf que la pratique des prix beaucoup trop élevés par rapport à l'industrie qui peuvent se permettre de faire des économies d'échelle. Donc on a fait quelques changements. Moi, je ne suis plus salarié de Résilien. Je suis salarié chez les CMEA. Et Simon, lui, continue encore un peu, mais il fait d'autres activités à côté pour faire rentrer de l'argent. Donc pour l'instant, Résilien, c'est plus une activité qu'on cherche à rendre associatif, pour laquelle on aimerait travailler en tant que bénévole, ce qui permet de changer les enjeux et pouvoir, par exemple, proposer nos services à des associations qui n'ont pas beaucoup de moyens et être du coup plus dans l'utilité plutôt que chercher forcément à être rentable.
D'accord. En tout cas, très très beau projet. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point pour conclure ou une chose importante que tu voulais dire à propos de Résilien ou même plus globalement ou par rapport au réagir peut-être avec ce qu'a dit Marie dans la première partie de l'émission?
Je dirais juste que je suis d'accord avec Marie sur le fait que low-tech c'est plutôt une démarche et que chez Résilien, nous sommes dans le numérique. C'est plus low-tech que ce qu'on peut trouver dans la grande industrie, mais c'est moins low-tech que du papier crayon quand on veut partager l'information. Donc c'est tout une question de dose et il faut toujours garder l'esprit critique sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce que nous faisons? Est-ce qu'on a vraiment besoin de la technologie? Et côté expérimentation, chez Résilien, on s'autorise choses un peu trop, comment dire, peut-être moins low-tech, on va dire. Par exemple, on a une demande d'une coopérative qui veut archiver ses données, environ 20 teraoctets de données, ce qui est beaucoup pour nous. Et donc, c'est un enjeu. On se dit, est-ce qu'on va accepter ou pas? Et si oui, qu'est-ce que ça implique? Et par exemple, donc, Simon a trouvé sur un site de vente d'occasion une machine qui fait du stockage sur des bandes magnétiques. Et les bandes magnétiques, par rapport à des disques durs mécaniques, ont une plus longue durée de vie. 30 ans environ contre 5 voire maximum 10 ans pour un disque mécanique. Et donc on se dit, bah, les bandes magnétiques sont plutôt plus low-tech que les disques mécaniques. On n'a pas encore la réponse, mais on vient d'avoir la machine tout récemment, mais ça fait partie de nos expérimentations.
D'accord, alors moi je pensais l'inverse, hein. J'avais vraiment une représentation qui faisait que les bandes c'était obsolète, que c'était moins performant, mais a priori t'es en train de dire le contraire. Donc c'est aussi c'est intéressant, parce que finalement c'est la recherche qui fait que, enfin c'est vos expérimentations et vos questionnements qui font qu'on peut débunker ce type de choses qui circulent, quoi. Ok, bah écoute... Oui, je t'en prie, Fred.
Juste rappelle ce que veut dire débunker.
Pardon, débunker. Oui, alors critiquer la question. Enfin, comment tu le dirais, tiens?
Révéler.
Oui. Enfin, en tout cas, dire le contraire de ce qui est généralement pensé, quoi.
Voilà, exactement.
C'est ça.
Merci.
Montrer que c'est le contraire que ce qui est généralement pensé. Voilà. Merci, Kylian. On va en rester là. On va repasser la parole à Marie Verdeil. Je te remercie beaucoup pour cette intervention-là, qui éclaire aussi la vie d'un hébergeur local, Chaton. Par ailleurs, donc merci à toi.
Merci à vous.
Ah si, il y a du décalage, je pense. Merci à toi, Kylian. À très bientôt. Et je vais repasser la parole à Marie. Alors je vais relayer deux questions qui sont passées sur le chat. Alors, il y a une question de Michael, qui nous demande comment on peut aider Low-Tech Magazine. Est-ce qu'il recherche des rédacteurs, des relecteurs, des traducteurs?
Alors oui, merci Michael. Donc, en français, on a déjà beaucoup de traducteurs. Je crois que la plupart du site a été complètement traduit. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc d'ailleurs, il y a plusieurs articles qui sont sortis dans un volume, donc le volume 3. Donc les compilations d'articles, il me semble, de 2018 à 2021 ont été complètement traduits en français. Et les traductions ont été égalisées. Donc je sais pas si on recherche, je pense que c'est toujours bien de proposer des services de traducteurs, on a une grande communauté qui nous aide beaucoup. Et après, comme j'ai dit, donc le site de Low-Tech Magazine n'est pas compatible avec tout ce qui est pub, donc le modèle économique de Low-Tech Magazine, c'est les livres. Donc pour l'instant, il y a 3 livres qui sont sortis, donc des compilations des articles en anglais, et on est en train de travailler sur toutes les traductions en française, mais il y en a déjà une qui est disponible. Donc ça, c'est pour soutenir Low-Tech Magazine, c'est acheter le livre, et en plus c'est une expérience, je pense, très différente et très forte d'acheter le livre papier pour le lire et vraiment se plonger dans les sujets. Et après, on a aussi un Patreon, donc un système de soutien de
financement participatif,
exactement, qui nous aide. Donc voilà. Et donc ça, tout ça sur le site, si vous allez sur le site, donc le site c'est solar.lowtechmagazine.com. Il y a un onglet, donc si on voit dans la version française, qui s'appelle faire un don, il me semble. Et donc là, il y a plusieurs choses. Et il y a aussi une newsletter aussi en français et en anglais qui permet d'être informé des informations. Et donc là, on a pas mal de choses qui sont en préparation. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à la newsletter, qui est la façon la plus fiable de nous suivre, quoi. Parce que bon, les réseaux sociaux ont beaucoup de limites.
Très bien, donc du coup, dans la newsletter, on saura les articles qui sortent, etc.
Exactement.
Super, merci beaucoup. Alors du coup, une deuxième question par rapport aux licences. Sous quelle licence sont placés les articles? Il n'y a rien d'autre que copyright, crise de Decker en fin de page.
Alors, il me semble que les articles sont copyright. Je ne suis pas exactement sûr, il faudrait demander. Je sais que, par exemple, sur la question du manuel, donc le manuel par exemple, qu'on a fait pour le vélo, de toute façon, on ne peut pas vraiment copyrighter, et c'est pas du tout l'idée du vélo, et en plus, on est plein de personnes à l'avoir fait. L'idée, c'était vraiment de partager tout le savoir qu'on avait avec des gens. Après, là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de statut qui a été... L'idée, c'est de mettre ça de façon que ce soit libre, mais on n'a pas... C'est une question qu'on se pose, mais je pense qu'on ne connaît pas beaucoup, on ne s'est pas encore trop plongé dans les licences. Et du coup, de voir exactement comment on pouvait faire ça aussi de façon qui nous parle. Je pense que ce qui nous intéresserait, ce serait d'avoir des échanges avec les personnes qui peut-être ont envie de reproduire ces choses-là, d'utiliser des articles. Après, je sais que toutes les gens qui ont demandé d'utiliser des articles, de les publier, de les republier, etc., ça a été accordé. Il y a des gens qui l'ont publié en portugais, par exemple. Donc, je sais que c'est... Je ne sais pas exactement, voilà.
Oui, quelle a été la réflexion de pourquoi le mettre en copyright? Il y a peut-être pas. Enfin, si, ça a été vraiment
réfléchi. Je ne sais pas si c'est vraiment. Il y a vraiment une réflexion. Je pense que c'est un choix par défaut à la base. Et après, maintenant, je pense que c'est des questions qui se posent, mais qui n'ont pas encore été vraiment. On va dire, il n'y a pas eu de changement clair.
Donc, on peut vous mettre en relation avec des gens qu'on connaît bien à l'April pour vous donner des arguments dans un sens. Après, évidemment, à vous décider, mais on pourra vous donner des arguments complémentaires.
Non, mais voilà, c'est des questions qu'on se pose déjà, notamment sur tout ce qui est tutoriel, etc. Donc,
Très bien. Bah, merci d'avoir répondu à ces deux questions. Alors, il y a un côté extrêmement intéressant aussi dont on n'a pas encore parlé, qu'on voulait évoquer, qui était la question du site solaire. Ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Kylian. Alors, il y a une version solaire du site.
Exactement.
Tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je pense que Kinyan, il a bien, on va dire, tâté le terrain sur cette question-là. C'est-à-dire que donc le site de Low-Tech Magazine, en tout cas celui qu'on essaye de rendre le site principal, donc dont l'URL c'est solar.lowtechmagazine.com, c'est un site qui est hébergé sur un petit serveur qui est lui-même alimenté par un panneau solaire qui se trouve à Barcelone, sur le balcon de Chris, dans son appartement. Et du coup, ce que ça fait, c'est que quand il fait nuageux pendant plusieurs jours d'affilée et que la batterie n'a pas le temps de charger, le site arrête de marcher. Le site est hors ligne. Et d'ailleurs, c'est la première, quand on arrive sur la page, c'est la première chose qu'on voit, c'est ce site pourrait être en ligne. Alors, je ne sais pas comment c'est en français, mais peut être hors ligne. Voilà. Et c'est un peu l'idée, c'est, je pense que cette première idée, c'est vraiment de mettre, de challenger l'idée de fiabilité du web, c'est-à-dire que l'idée que l'Internet c'est toujours en ligne et qu'il faut que ce soit 100% du temps en ligne. Et du coup, nous on a un site qui est, je crois, entre 95 et 98% du temps en ligne, ce qui est très très fort. Et c'est très bien ce que Kylian expliquait, c'est qu'arriver à 100%, ça demande énormément plus de ressources. C'est-à-dire que là où il y a un panneau solaire, je crois, c'est 30 watts. Et une petite batterie 12 volts genre de voiture qui permet d'alimenter le site, et il est en ligne quasiment tout le temps. Mais si on voulait qu'il soit 100% du temps en ligne, ça demanderait plusieurs panneaux solaires pour par exemple la seule semaine de l'année où en gros il fait vraiment moche pendant toute la semaine, et du coup ça peut pas du tout charger suffisamment. Et ça fait aussi que comme on a un système très simple et assez limité, et on a un serveur 2 watts il me semble maximum, ça veut dire qu'on a un site, change le site, on a un site qui doit être très très compressé, c'est-à-dire très petit. Parce qu'à la fin, quand on y pense, un site web, en tout cas comme celui qu'on a, c'est juste plein de fichiers sur un serveur que les gens y viennent accéder. Et donc nous, on a essayé de faire en sorte que ces fichiers, finalement, ils soient très légers. Donc on a un site qui s'appelle Statique, qui marche avec des pages HTML, des feuilles de style CSS, très très peu de JavaScript. Je crois qu'il y a genre une page qui utilise JavaScript, plus tout ce qui est pour avoir les... Parce qu'en fait, il y a les statistiques de combien de watts ça utilise, etc. Donc, si on veut aller en bas du site. Et après, on a par exemple compressé les images extrêmement pour qu'elles soient très légères et qu'elles consomment peu et qu'on n'a pas besoin de les télécharger des gros fichiers. Et on utilise ce qu'on appelle un générateur du site statique. C'est-à-dire, ça va être un outil qui va nous permettre de passer de Markdown, qui est un format assez clair de
pour un humain,
voilà,
pour un humain, exactement. Voilà, il y a quelques balises, on appelle, voilà,
c'est des balises, etc., à du HTML avec tout ça et le style qu'on a voulu, voilà. Donc ça c'est le site solaire, le site low-tech, et donc ça aussi c'est très bien référencé en ligne. Mm-hmm. il y a un tutoriel, il y a aussi un article qui s'appelle est-ce que c'est vraiment, alors en anglais, en français je sais pas comment il s'appelle, mais qui parle de à quel point ce site est vraiment soutenable. Mmh. Et en fait finalement qui est aussi par le fait que si c'était un data center qui serait aussi efficace, il serait très efficace, mais que finalement là, vu que c'est un site tout seul, bah, il est peut-être moins efficace que parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle comme Kylian en parlait. Donc je pense qu'il est aussi critique de ce qui se passe, etc. Et il y a aussi des tutoriels sur la partie design du site qui a été fait par Marie Otsuka, qui est une designer je pense très talentueuse qui nous vient des États-Unis, et Roel Roskam Abing, qui s'est occupé, qui est un artiste néerlandais, mais qui est vachement dans tout ce qui est. Qui s'est occupé de toute la partie serveur, entre autres. Et qui fait beaucoup d'hébergement et qui s'intéresse beaucoup aux questions de réseau. entre autres, et du numérique. Voilà, donc ça, c'était les personnes qui ont participé à ce projet. Donc c'est...
D'accord.
Il y a beaucoup d'informations.
Alors du coup, moi, j'ai quelques questions. J'ai d'abord découvert le site Solar, et après, j'ai découvert qu'il y avait un site qui n'était pas Solar. Ouais. Et du coup, j'étais un peu déçu. Mais j'ai un peu la réponse, Kylian a un peu donné la réponse. Finalement, c'est des questions de référencement. C'est des questions de... Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous aviez dupliqué le site dans un mode moins économe?
Alors, je pense qu'au début, c'était un projet, on va dire, expérimental de faire ce site, et on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et donc ça, c'était en 2018, et il y a eu un gros succès. Il y a eu beaucoup, les gens en ont beaucoup parlé. Et du coup, mais c'est vrai qu'au début, à la base, je pense que c'était pas forcément pensé pour être un remplacement, mais plus comme une expérimentation et voir ce qui se passait.
Ah oui, d'accord. Alors, c'est le site normal, entre guillemets, qui a d'abord été fait.
Ouais,
et
à la base, c'est un site typepad, c'est un truc un peu comme WordPress, qui était pas du tout, il y a pas de réflexion, sur la partie, on va dire, la dimension écologique du site. Et c'est vrai que là, c'est devenu assez, puissant. Alors pourquoi il y a toujours un site, j'ai envie de dire, il n'y a pas un autre site pour très longtemps. C'est-à-dire que là, on est en train de travailler à ce moment même, là, d'ici 2-3 semaines. En fait, c'est qu'il y a encore beaucoup d'articles qui sont sur ce vieux site, qui n'ont pas été encore transférés. Et en fait, c'est très compliqué parce que, évidemment, ce n'est pas un logiciel libre. On ne peut pas sortir facilement de ce service qui est iPad. Il ne nous laisse pas télécharger les images. Il ne laisse pas, on ne peut pas sortir du Markdown. On ne peut pas sortir, il y a un HTML, mais qui a plein de pubs encore et de liens dedans. Donc, on a conçu un script, mais qui n'est pas du tout parfait pour essayer de sortir le maximum d'informations de ça. Mais c'est un processus qui prend du temps et qui, en plus, nous coûte de l'argent, au sens qu'il ne nous rapporte pas du tout d'argent de faire ça. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Après, là, on se retrouve, l'idée, c'est de vraiment en sortir. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il y avait 5 sites Low-Tech Magazine. Il y avait en français, en néerlandais, en anglais. Il y a un autre site qui s'appelle No-Tech Magazine, qui, lui, et encore sur WordPress, et qui vraiment est un peu le site sœur de Low-Tech Magazine, qui va plus être des liens et des plus petits billets qui viennent compléter souvent les articles plus longs et recherchés de Low-Tech Magazine. Et il y avait aussi le Low-Tech Magazine en espagnol. Et du coup, là, on est en train de rassembler un petit peu. Donc, il y a déjà les sites, tous les sites de différents langues ont été rassemblés sur le site Solaire. Et il manque encore beaucoup d'articles, des vieux articles qui doivent être amenés. Et en fait, quand ce processus sera finalisé, l'idée, c'est d'arrêter l'autre site, quoi.
D'accord. Ah ben, ça, c'est, je suis absolument rassuré. Si vous étiez dans la démarche, alors ça me va complètement.
Et l'autre raison aussi, parce que pour l'instant, c'est que sur le site Solaire, on utilise des images qui sont compressées. Donc, elles utilisent, en anglais, on dit dithered, c'est-à-dire, elles ont une sorte de pixelisation. Mm-hmm. Donc là, en plus, qui est coloré, elles sont tramées, exactement, et qui permettent de les compresser. Enfin, elles peuvent être, on va dire, de très mauvaise qualité, mais c'est pas aussi moche que du pixel. C'est aussi un choix esthétique qu'on a fait d'identification, un peu qui parle de la compression, du fait qu'on a des images compressées, qu'on a un site compressé. Mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'images, notamment des graphiques, des images où les textes sont très importants, où il y a beaucoup de gens qui vont consulter, ceux qui savent, qui vont consulter le site, le vieux site, pour voir les images en bonne qualité, pour se rendre compte, notamment des graphes. D'accord. Et notamment sur les vieux. Maintenant, on pense, moi je fais des graphiques pour les articles et je pense à tout écrire en gros pour que ce soit lisible, même malgré la pixelisation. Mais c'est vrai que c'est pas le cas sur les autres articles. Et du coup, avec le nouveau site, on a décidé d'inclure aussi une façon d'accéder avec un petit script aux images originales, si on le veut. Et du coup, de choisir de télécharger plus de données de l'image originale, même si elle est aussi compressée. Et du coup, ça nous permet de nous débarrasser complètement de ce vieux site, mais aussi sans perdre vraiment l'information des fois qui est très nécessaire, notamment des cartes et des images d'archives, etc., qui quand même ont beaucoup de valeur. Ça serait bête de perdre ça avec l'information, on va dire, de bicolore.
D'accord, mais effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant de pointer cette question des photos, parce que finalement, les photos sur le site, elles sont de l'ordre de 10 kilooctets, non ? Enfin, 10 à 40, enfin...
C'est ça, on est assez peu, c'est en dessous de 50.
Alors que les appareils, quand on fait une photo avec son appareil photo numérique, enfin avec son téléphone, smartphone, on est sur des 4 mégas, donc on est pratiquement, enfin un peu moins de 1000 fois plus. Enfin, voilà, on voit bien la conséquence de cette réduction, de cette sobriété que vous avez expérimenté avec le site. Et si je me souviens bien dans le site, j'ai pas revu récemment, mais il y a un niveau la couleur du haut de la page est différente du de la couleur du bas de la page pour signifier le niveau de charge de la batterie et de l'ensoleillement, c'est ça ?
Exactement, on a un niveau, donc on a un truc qui va mesurer la batterie directement à la sortie, et du coup on va avoir cette information qui va être sur le site dans le comme un niveau, exactement comme tu l'as dit, il y a une sorte de pile au milieu. Et du coup, on voit la jauge de batterie et aussi dans le footer en bas qui explique aussi ça.
Dans le pied de.
Et l'idée, c'était un peu aussi de pouvoir prévenir les gens que si le site il est à 12%, ben voilà, il reste plus beaucoup de temps. Donc,
dépêchez-vous de lire les articles.
Voilà, ou d'aller acheter le livre en ligne pour,
très bien.
Pour les lire. Et puis aussi un petit peu de. Parce qu'aussi, je crois qu'il y a beaucoup. On utilise beaucoup le cache. Donc en fait, si vous avez consulté les articles, après, vous allez pouvoir les réaccéder sans
retélécharger les données.
Exactement. Et du coup, il y a plein de dynamiques comme ça qui font pour, on va dire, éviter tous ces transferts de données, ces téléchargements qui vont être consommateurs d'énergie et qui.
D'accord. Il y a aussi beaucoup de réflexions autour de ça, quoi. De transfert de données inutiles. On limite, on.
C'est ça. L'idée, c'est de limiter de façon générale et aussi de voir, en fait, à quel point on peut limiter sans se limiter dans la publication. Et c'est un peu ça qu'on s'en rend compte, c'est que finalement, là, on a des articles. Qui vont consommer, enfin l'article c'est peut-être, je crois qu'il y a aussi il y a la taille de la page pour chaque article, donc la taille de la page avec toutes les images que cette page a, et souvent on est dans les 200-300 kilobits, donc c'est très peu.
Alors qu'un site normal avec des images, ça va être 100 fois plus, quoi. Ça peut être 100 fois plus tranquillement avec des photos qui n'ont pas été redimensionnées, des choses comme ça, des vidéos, enfin, n'en parlons pas, quoi, effectivement.
Et puis en plus, je pense que il y a aussi toute la question d'accessibilité, au sens que finalement, avoir un site qui est très peu consommateur d'énergie, c'est aussi plus accessible dans le sens que des personnes qui n'ont pas beaucoup de réseau, par exemple, qui se retrouvent dans les endroits où il y a peu de réseau, où le réseau coûte très cher et qu'il faut le payer faut payer son forfait assez cher, ben ils vont pouvoir accéder sans problème. Et aussi des personnes qui ont des appareils numériques anciens. Mm-hmm. Donc là, on revient à la question de
préserver ces appareils.
De préserver les appareils, et ben ils vont quand même pouvoir accéder au site parce qu'il n'est pas. Même si, il y a peut-être des trucs qui ne vont pas marcher parce qu'on n'a pas HTML5 ou je ne sais pas quoi. C'est même pas un souci parce qu'à la fin, voilà, c'est du HTML qui est sémantique et qu'on peut juste lire ça et CTRL-P, c'est imprimé sur papier, et voilà quoi. Il y a aussi des styles d'impression, c'est-à-dire qu'on peut faire CTRL-P, imprimer, et on peut imprimer l'article. D'ailleurs, il va s'imprimer, ok, ça a été designé très bien par Lorraine, qui est la personne qui a d'abord designé le livre, comme une sorte de journal, quoi, avec deux colonnes. Donc on peut aussi même lire les articles. Voilà.
Proprement imprimé, impeccable.
Proprement. Après, c'est sympa d'acheter le livre.
Bien sûr. Il nous reste une ou deux minutes maximum. Qu'est-ce que tu aurais envie de compléter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit ? Est-ce qu'il y a vraiment une chose que tu souhaites répéter ou que tu aurais oublié ?
Qu'est-ce que j'aimerais répéter ? Je pense que ce qui est important de retenir, ça serait de dire que qu'il faut un peu essayer de dépasser l'idée de low-tech comme un mode de vie, que c'est une démarche politique et qu'on a envie que ce soit une démarche conviviale. Et qui pensait aussi de quelle manière elle peut renoncer à certaines choses, ça peut aussi nous rendre heureux et remettre en question certaines choses auxquelles on est habitué, certains exercices de pensée. C'est un exercice de pensée aussi qui permet de remettre en question, on va dire, des préconceptions qu'on va avoir. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais insister. Et après. Écoutez, abonnez-vous à la newsletter et comme ça on reste en contact et il y a beaucoup de choses qui arrivent là. On va avoir une BD qui va sortir sur Chris qui a été fait par un auteur belge,
ouais.
de comics. On a l'article qui sort sur le nouveau site solaire et un article aussi sur des panneaux solaires et construire des petits systèmes de panneaux solaires qui va sortir là dans les prochains mois.
Super. Bah écoute, merci beaucoup Marie d'avoir fait ce déplacement depuis Bruxelles.
Merci.
Je vais repasser la parole à Fred et puis remercier aussi Kylian. Mais je l'ai fait tout à l'heure avant qu'il raccroche. Ça a été un peu. Je te repasse la parole, Fred.
Bah écoute, merci Laurent. Donc nos invités, Marie Verdet qui est donc designer chez Low-Tech Magazine et indépendante. Nous avons aussi Kylian Kemps, cofondateur de l'hébergeur résilien qui est du côté de Lannion. On reparlera tout à l'heure de Lannion dans les annonces si j'ai le temps. Et évidemment, le sujet a été préparé et animé par Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA et vice-président de l'April. J'en profite juste pour faire une petite annonce. Dans sa conclusion, Marie a parlé de démarche politique. Eh bien, le 23 mai, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Agnès Crépet pour un parcours libriste. Agnès Crépet, qui est donc la responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle chez Fairphone, le téléphone durable, réparable et éthique, et qui on va parcourir un petit peu la vie d'Agnès Crépé. Je pense que la démarche politique est en plein dans sa démarche à la fois personnelle et professionnelle. Donc c'est le 23 mai. Et puis nous allons donc faire, je vous souhaite une belle fin de journée, et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Jean-Christophe Becquet sur Wiklou, le wiki francophone du vélo. En attendant, nous allons écouter Women's Hoots de Cyber SDF. On se retrouve dans 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Un petit peu la pause musicale pour laisser du temps au dernier chroniqueur. Donc je rappelle que nous venons d'écouter partiellement, en tout cas, Women's Hoots par Cyber SDF, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Nous allons passer au sujet suivant. Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile, Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource publiée sous une licence libre. Les autrices et auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Jean-Christophe, tu es avec nous ?
Oui, bonjour Fred, bonjour à tous,
bonjour
à toutes. Notre récente enquête pour connaître l'auditorat de Libre à vous, positionner Rayon Libre, l'émission consacrée au vélo, en tête des programmes de Cause Commune aussi écoutés par les auditeurs et auditrices de l'April. Du 1er au 31 mai 2023 se déroule Mai à vélo, une programmation qui rappelle Libre en fête, coordonnée chaque printemps par l'April, avec plusieurs centaines d'événements partout en France. Enfin, la semaine dernière se tenait au ministère de l'Écologie le premier comité interministériel vélo et marche. Les investissements annoncés, 2 milliards d'euros budgétisés par l'État d'ici 2027, dépassent tout ce qui avait été dégagé jusqu'à présent, indique Olivier Rasmont sur lemonde.fr. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de Wiklou, le wiki francophone du vélo. Initié en 2010 par l'association grenobloise Un petit vélo dans la tête, Wiklou est aujourd'hui animé par Le Recyclage, le réseau des ateliers vélos participatifs et solidaires. Il s'appuie sur le logiciel libre MediaWiki, le même qui fait fonctionner les différents projets de la constellation Wikimedia, l'encyclopédie Wikipédia, mais aussi la médiathèque Wikimedia Commons, la base de données Wikidata, et bien d'autres moins connus. Le contenu du Wiklou est placé sous une double licence libre, Creative Commons by SA, attribution partage dans les mêmes conditions, et GNU-FDL, Free Documentation License. Cette mention de licence est souvent difficile à trouver sur les sites web que je parcours. Ici, elle est mise en avant dès la page d'accueil. Et la motivation de ce choix me semble également intéressante à relever. Cela garantit son utilité et sa pérennité. Wiclou, Trêve du vélo sous toutes ses formes. Vous y trouverez un annuaire des associations vélo en France, une documentation sur les différentes pièces, accessoires et outils, mais aussi une revue d'articles sur les liens entre pratique du vélo et santé. Ou encore une sélection de contenus musicaux sur le thème du vélo pour les animations et les bonnes soirées vélorussionnaires. Wiclou héberge aussi Magic Cambric, un fanzine qui ne se prend pas du tout au sérieux. Cette publication a pour but de promouvoir les petites trouvailles qui contribuent à ce que la vie dans les ateliers soit plus belle, plus drôle, plus pratique. Magic Cambric contient des Magic Fish qui valent le détour. Des drôles, des belles, des indispensables, des totalement farfelus, des maladroites, des œuvres d'art, des schémas géniaux dessinés à l'arrache, comme on en fait parfois sur des bouts de nappe. Quelques exemples. Pour dormir plus et travailler moins, le hamac en chambre à air. Dans la catégorie utile pour la vie de tous les jours, la perche attrape tout. Et dans la catégorie convivialité, le décapsuleur en chaîne de vélo. Pour finir, j'aimerais annoncer un événement qui croise le monde du libre et celui du vélo. Le week-end prochain, dans le pays Gapensé. Nous organisons en effet une carto-partie autour de la véloroute 862, la Durance à vélo. Pendant 2 jours, nous invitons à découvrir OpenStreetMap et à contribuer ensemble autour de cet itinéraire afin d'améliorer la description des services et points d'intérêt pour les cyclistes. Alors, si vous êtes du côté de Gap ou Briançon, vendredi 12 et samedi 13 mai 2023, rejoignez-nous. Vous trouverez le lien vers le programme détaillé sur la page consacrée à l'émission sur libreavoue.org. Et en attendant, je reprends le nom du collectif associatif qui fait vivre Wiclou, le wiki francophone du vélo, pour vous souhaiter un heureux cyclage.
Écoute, merci Jean-Christophe. Recyclage, c'est heureux cyclage en deux mots.
Absolument.
Voilà, j'ai comme peut-être, alors j'aurais dû lire ta chronique, mais j'ai préféré avoir le plaisir de la découvrir en direct. Mais tu as dit au début d'émission que donc Rayon Libre était l'émission consacrée qui avait en tête des programmes de cause commune aussi égouttés par les auditeurs et auditrices de Libre à vous. En fait, c'est la deuxième, parce qu'en fait la première c'est Cyberculture, l'émission sur la technologie le samedi animée par William Agasvari. Donc, mais effectivement Rayon Libre, c'est la deuxième, donc c'est Rayon Libre consacré au vélo, qui est donc diffusé en fait chaque lundi en direct de 14h à 14h30 et animé par Jérôme Sorel. Donc dans ce même questionnaire, donc qui est en ligne hein, sur le site, dont l'analyse est en ligne sur le site libreavoue.org. Le premier département d'écoute des auditeurs et d'auditrices était Paris, hein, sans grosse surprise, mais le deuxième, si tu te souviens bien, c'était l'Isère, qui est un département que tu connais bien.
Et à nouveau, j'ai pas fait exprès, mais le Wiclou est né à Grenoble avec l'association Un Petit Vélo dans la Tête, qui est un des premiers ateliers vélo. Aujourd'hui, on en trouve un petit peu partout en France, mais voilà, l'association grenobloise fait figure de pionnière. Hein.
Oui, il y a certaines personnes sur Mastodon, dont Fabien Cazenave, Nicolas Vivant, qui régulièrement disent « Grenoble, c'est classe ». Je crois qu'il y a un gros repère de libristes dans cette région, en tout cas. Bah écoute, merci Jean-Christophe, et puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique Pépite Libre.
Ça marche, merci et belle fin d'émission.
Alors, nous approchons justement de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors tout à l'heure, je disais qu'on allait reparler de Lannion dans les Côtes d'Armor, hein, en effet, car samedi 13 mai, il y a une permanence de l'association informatique Infothema, présentation de la nouvelle version de la distribution Ubuntu, donc l'occasion de découvrir cette distribution donc dans les Côtes d'Armor, du côté de Lannion. Du côté de Nanterre, le week-end des 13 et 14 mai, il y a un NAC Weekend OpenStreetMap. Donc un NAC Weekend OpenStreetMap est un événement où vous venez avec votre ordinateur portable, vos idées, votre to-do list, et où vous travaillez ou discutez avec d'autres personnes autour d'OpenStreetMap, la carte du monde créée par des gens comme vous et libre d'utilisation sous licence libre. Du côté de Lyon, les rencontres professionnelles du logiciel libre sont un salon professionnel organisé par l'association PLOS ERA, qui est l'association professionnelle autour de la région de Lyon, donc un réseau d'entreprises du logiciel libre établi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc le salon s'adresse aux entreprises entreprises, collectivités, associations, universités et écoles qui cherchent des solutions à leurs besoins informatiques, des solutions libres évidemment. Cette année, ce salon aura lieu le mercredi 24 mai 2023 à Lyon. À cette occasion, l'April tiendra un stand et nous cherchons des personnes pour étoffer notre équipe de bénévoles, si vous avez envie de rejoindre l'équipe de bénévoles de l'April et vous êtes du côté de Lyon. Évidemment, tous ces événements sont référencés sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, dans lequel vous trouverez évidemment toutes les autres informations concernant les événements à venir autour des logiciels libres et de la culture libre. Notre émission se termine, donc je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Marie Verdeil, Kylian Kemps, Laurent Costi, Jean-Christophe Becquet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, il était un petit peu stressé parce qu'on faisait des nouveautés dans l'émission, mais Thierry Olville a assuré comme un grand, comme un fou. Il est en plus très content, visiblement bien décontracté, c'est bien passé. Ah là je l'ai piégé, il n'était pas prêt. Non, t'énerves, vas-y.
Très bien.
Super. Ouais,
je m'y fais.
Tu t'y fais très très bien, merci à toi. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Donc Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibé, au bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écoutez l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la voix radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 16 mai 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la stratégie logicielle libre de la ville d'Abbeville qui se trouve dans les Hauts-de-France. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 16 mai et d'ici là, portez-vous bien.